Le texte que l'on étudie ce matin, si vous voulez le chercher, se trouve dans Luc chapitre 8, verset 3. Le passage que, sinon, nous lisons, mais c'est pas dans l'attention à ce qui est dit là. Jésus allait de ville en ville, et de village en village, et prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais, de maladies. Marie appelée Madeleine, de qui étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs d'autres qui les assistaient de leurs biens. Certaines traductions, peut-être dans certaines Bibles, le matin qui l'assistait de leur bien, c'est-à-dire au singulier Jésus-Christ. Et c'est de ce verset-là qui crée le titre et le sujet pour ce matin, mettre ses biens au service du Seigneur. Je vais lire avec vous un autre passage, en 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 19. Jean 3, verset 16 à 19. À ceci, nous avons connu l'amour, ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède le bien du monde, qu'il voit son frère dans le besoin, qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeura-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. Nous avons ici deux textes apparemment qui ont des contextes différents. Dans le premier, quelques femmes, disciples, qui voyageaient avec Jésus, assistaient Jésus, et apparemment aussi les apôtres avec le bien. Jésus s'occupait d'aller de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle. Et pour qu'il soit libre de le faire, ces femmes l'aidaient financièrement. C'est-à-dire, il pourvoyait tout ce qu'il avait besoin. Mais dans cet autre texte, 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 19, est-il si différent que ce texte que nous avons lu dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3? Et je dirais non. Pas du tout. Le contexte est le même dans le sens qu'il y avait et qu'il y a toujours des besoins physiques pour lesquels nous pouvons venir en aide. Ainsi, j'en parle de donner notre vie pour les frères, d'être prêt à aider de toute manière possible. Et que là, c'est un signe de notre amour pour nos frères. Et dans le contexte de ce passage, en Jean chapitre 3 et aussi chapitre 4, c'est aussi un signe de notre amour pour Dieu. Que ce soit directement à Jésus lui-même, comme c'était le cas avec ces femmes en Luc chapitre 8, ou que ce soit à un autre, c'est toujours un service rendu au Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez par exemple du passage en Matthieu chapitre 25, si vous voulez chercher ça, versets 34 à 40, petite histoire que Jésus raconte pour illustrer un sujet important. Alors, chapitre 25, Matthieu, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez repéri. Vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Et c'est juste de s'être étonné de cela parce qu'il ne se rappelle pas du tout qu'il avait aimé Jésus de cette façon. Et puis il a dit au verset 40, il devra le répondre. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. J'aime bien le Proverbe, chapitre 19, verset 17, il est dit, celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. On prête à l'Éternel. Mais j'ai lu une fois une petite histoire, je crois que c'était dans un bulletin de l'église, une assemblée quelque part, de deux hommes assez aisés qui faisaient un voyage autour du monde. Je crois pour visiter les assemblées. L'un était un avocat, l'autre était un homme d'affaires. Et un jour, en Corée du Sud, il passait à côté d'un champ où un adolescent tirait lui-même une charrue, guidée par un homme âgé qui était apparemment son grand-père. Et l'avocat le trouvait intéressant, donc il a pris une photo de cela. Et plus tard, en montrant la photo au missionnaire qui travaillait dans cette partie du pays de Corée du Sud, l'homme lui a dit, cette photo l'intrigue. Je suppose qu'ils sont très pauvres. Le missionnaire a répondu, c'est la famille de Chi Mi. Il y avait un grand besoin dans l'assemblée et il voulait aider. Malheureusement, il n'avait pas d'argent. Alors, ils ont vendu le bœuf et donné l'argent qu'ils avaient gagné à l'église. Et ce printemps, c'est eux qui tirent la charrue. Les deux hommes étaient silencieux pendant quelques moments et puis l'un d'eux a remarqué, c'est vraiment un sacrifice pour eux. C'était vraiment un sacrifice. Et le missionnaire leur a répondu, il ne le considère pas vraiment comme un sacrifice. Il le considère comme un privilège d'avoir un bœuf à vendre. Cette petite histoire m'a fait réfléchir à ce que c'est de vraiment faire un sacrifice. De mettre ses biens au service du Seigneur et des autres, de mettre soi-même au service du Seigneur. Et ça m'a fait penser à une autre petite histoire qui s'est passée, c'est en Luc chapitre 21, versets 1 à 4. Luc 21, versets 1 à 4. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient les offrandes dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve en mis plus que tous les autres, car c'est de la superflu que tout cela a mis dans les offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi Luc et aussi Marc racontent-ils ce petit épisode dans le ministère de Jésus? Je crois qu'ils le racontent parce que Luc et Marc savaient que pour Jésus, un esprit de générosité, un esprit de sacrifice était très très important. Jésus voulait que ses disciples, et ainsi chacun de nous aussi, comprennent et aient en nous ce même esprit de sacrifice. Et je dirais même que nous soyons un sacrifice. Ça me fait penser à ce qu'a dit Paul, écrit Paul à Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Certaines traductions disent un service raisonnable. Mettez nos biens au service du Seigneur. Vous comprenez, savoir sacrifier, savoir donner avec générosité, et ce qui est le contexte de notre étude, montre que nous avons compris le sacrifice que Dieu a fait pour nous. Ce qui est plus, savoir sacrifier est une marque de notre reconnaissance à Dieu. Il y a un passage dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 24, un verset, on ne fait pas grande attention non plus. Et David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes gratuits. Et est-ce que vous vous rappelez du contexte de ce passage? pas beaucoup de monde. C'est l'histoire où Dieu voulait épargner Israël d'une plaie. Parce que David avait fait une sorte de... Il avait contre Israël, contre la volonté de Dieu. Et l'ange du Seigneur est venu frapper le pays avec la maladie. Et il y a des gens qui ont mouru. David a prié l'Éternel, il s'est repenti de ce qu'il avait fait. Et Dieu a épargné le reste du pays. Et David voulait offrir un sacrifice de remerciement à Dieu. Il est allé vers un homme et il a proposé à cet homme d'acheter le lieu aussi le bœuf pour faire le sacrifice. L'homme a dit, non, je le donnerai gratuitement. Comme ça, vous pouvez le faire. David, à ce moment-là, dit non. Je n'offrirai pas un holocauste à l'Éternel qui ne coûte rien. L'esprit de sacrifice. Et ce qui est encore plus, savoir sacrifier est une démonstration de notre amour pour les autres. L'apôtre Paul avait même dit aux frères et sœurs dans l'assemblée de Corinthe, 2 Corinthiens 8, verset 24, « Donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour. » Comment voulait-il Paul qui donne une preuve de leur amour, ses frères et sœurs à Corinthe? Dans le contexte, dans ce cas précis, en donnant de leur argent, pour répondre aux besoins de mes frères et sœurs en Judée qui étaient sérieusement éprouvés. Au début de 2 Corinthiens chapitre 8, cherchez ce passage, Paul avait même donné l'exemple des frères et sœurs en Macédoine qui avaient donné d'une manière sacrificielle pour ce même besoin. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvée par les tribulations, les joies débordantes et les pauvretés profondes ont produit avec abondance de riches libéralités. Selon les possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de le plein gré, ils ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur par la volonté de Dieu. Et certaines traductions disent selon la volonté de Dieu. Mais ces frères et sœurs, quelle était la raison de leur insistance pour donner aux besoins de ces frères et sœurs en Judée? Dans la verset 5, le verset 5 nous donne la réponse. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous, selon la volonté de Dieu. Il savait que Dieu voulait qu'il se donne entièrement à lui et aux autres. Ce n'était pas donc difficile de donner de leurs biens, même de leurs biens dont ils avaient besoin eux-mêmes, parce qu'ils se sont d'abord donnés au service de Dieu et aux autres. C'est pourquoi les femmes qui accompagnaient Jésus ont pu donner de leurs biens pour pourvoir les besoins de Jésus et de ses disciples. C'est pourquoi la famille de Chimi en Corée du Sud me considérait un privilège d'avoir un bœuf à vendre. C'est pourquoi la veuve a-t-elle mis de son nécessaire. C'est pourquoi les frères et sœurs ici en Macédoine, l'exemple que l'apôtre Paul nous donne, ont insisté d'avoir la grâce, j'aime bien ce mot-là, d'avoir la grâce ou le privilège de participer à la collecte en faveur des saints. Ils se sont d'abord donné eux-mêmes au Seigneur et à nous, par ou selon la volonté de Dieu. Comme a dit l'apôtre Paul, ils ont fait de même un sacrifice vivant à Dieu. Et le reste a suivi automatiquement. Mais pourquoi est-ce que je soulève la question du sacrifice dans notre service à Dieu et aux autres? Et ce sacrifice peut être aussi notre temps, notre énergie, un talent que nous avons, aussi bien que nos biens physiques. Pourquoi est-ce qu'on parle de sacrifice? Parce que notre Dieu est un Dieu qui sait sacrifier. Et notre Dieu est un Dieu qui attend de nous son peuple, que nous soyons un peuple qui sait sacrifier. Un peuple qui se sacrifie individuellement et collectivement. Lisez un autre passage avec moi en Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 11. À 14. Tite 2, 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous a enseigné à renoncer à l'impiété et les yeux de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur de Christ Jésus. il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Zélé pour les œuvres bonnes. Mais il y a deux choses. Qu'est-ce que nous pouvons trouver ici? Deux choses. D'abord, que c'est Jésus qui s'est donné lui-même. Pourquoi? Afin de nous racheter de toute iniquité, afin que nous soyons purifiés. Ça, c'est la première chose, verset 14. Mais la deuxième chose que je trouve dans ce passage, il y a d'autres, mais je ne vous fais remarquer que deux. La deuxième chose, c'est que Jésus s'est donné lui-même afin, pourquoi? Afin que nous donnions en retour. Afin que nous soyons un peuple qui donne. Afin que nous soyons un peuple qui est purifié et zélé pour les œuvres bonnes. Quelles œuvres bonnes? Quelles bonnes œuvres? Donc, je crois que chacun de nous peut faire une longue liste assez détaillée des œuvres qui sont des œuvres bonnes, des bonnes œuvres. Mais j'aimerais suggérer en termes larges trois choses. Les œuvres bonnes, peut-être les offrandes. Vous voyez un frère, une sœur, ou des frères et une sœur dans le besoin, vous les aidez. Ça, c'est une œuvre bonne. Ça peut être aussi un service qu'on rend, qui a passé du temps à écouter, à parler avec quelqu'un, ou aider quelqu'un dans un besoin. Quelconque. Ou ça peut être aussi l'enseignement. Mais Jésus s'est donné afin d'avoir un peuple actif, un peuple qui donne à son tour, un peuple qui sait sacrifier, un peuple qui sacrifie, qui soit déjà un sacrifice vivant. Et c'est à cela, et c'est cela, mettre les biens au service du Seigneur. Je termine. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 11. Chapitre 9, verset 8 à 11. Lisez attentivement avec moi, s'il vous plaît. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné les indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat les actions de grâce envers Dieu. Amen.
Amen.
Maintenant, est-ce que j'ose répondre aux questions qui sont sur la feuille? Est-ce que quelqu'un a... ça. Je vous dis tout de suite que toutes les réponses sont fausses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis le vrai? Très rapidement, je vous donne une raison, ok? Ok? Donc, numéro 1. Nous avons, dans l'Ancien Testament, les Israélites donnaient comme les offrandes la dîme, la dixième part ou le 10% de tous les revenus. C'est faux. Parce que la dîme n'était pas une offrande. C'était quelque chose d'exigé. C'était comme une taxe, ok? Les offrandes étaient en plus de la dîme et il y a des estimations qui disent qu'en moyenne, les Israélites donnaient au moins 25% en plus de la dîme. Okay? Donc, ça vous calculez peut-être. Le Nouveau Testament nous ordonne de consacrer 10% de notre revenu à l'œuvre de Dieu. C'est faux, il n'y a pas de passage. L'offrande nous fournit l'occasion de donner à Dieu une part de ce qui nous appartient. C'est faux parce que rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu. Agir, chapitre 2, verset 8, en Chronique, chapitre 29, verset 14, si vous voulez, les passages qui disent cela. Contrairement aux actes de pitié, proprement dit, les gestes de générosité se pratiquent en vue des hommes plutôt qu'en vue de Dieu. Faux. Un acte de générosité prend sa valeur justement parce que c'est en vue de Dieu. Mathieu, j'ai eu un moment dit, on ne sait pas si la main droite, c'est pas quelque chose avec le poids qui vit. Le 5, n'est-ce pas? Au vu de Dieu, l'intention est de le compte plus que l'acte même de venir. C'est faux. La Bible nous donne l'occasion de réaliser les bonnes intentions. 6. Même si l'on donne à regret ou par contrainte, l'important pour Dieu, c'est qu'on participe à l'offrande. Faux. Dans le Nouveau Testament, les apôtres se gardent bien de demander une offrande aux pauvres, aux frères pauvres. Ça, c'est faux aussi, parce que l'apôtre Paul, dans le passage que nous avons lu, a demandé une offrande de frères et sœurs en Macédoine, par exemple. Et aussi, dans l'église de Jérusalem. Dieu veut que nous venions généreusement à condition que cela ne m'entraîne pas pour nous des sacrifices financiers. Achevé. Le sacrifice fait partie de l'offrande. C'est ça que je voulais faire ressortir ce matin. Ce n'est pas vraiment une offrande si ce n'est pas un sacrifice. Bon, on peut aller tout plus loin avec ça. Il y a égalité dans l'offrande en ce sens que chacun doit donner le même pourcentage de son revenu. Encore, c'est pour chacun décide pour lui-même ce qu'il doit donner. Ça doit venir du cœur. Ça doit être donné avec joie et sans contrainte. Le don à la colère n'a rien à voir avec la sincérité de notre engagement envers le Seigneur. C'est encore achevé parce que, encore, c'est une manière de montrer notre reconnaissance et aussi notre amour pour Dieu et les uns les autres. Les disciples qui nous donnent rien et qui nous donnent passionnément, excusez-moi, à la colère peut quand même s'attendre à recevoir de Dieu une abondance de bénédictions. Votre avare ne porte aucune promesse de bénédiction de la part de Dieu. Donner de notre temps et de notre énergie à l'œuvre du Seigneur nous dispense de devoir participer à l'offrande. Encore, c'est faux. Dieu partage ses richesses avec nous pour que nous puissions partager avec les autres. Merci.
Merci. Les animaux, etc., leur façon de trouver la vérité, de trouver ce que les dieux leur disent. Et quand un occidental, un européen vient leur dire, mais ça c'est un non-sens, ça, il peut prouver logiquement que ça n'a pas de sens. Il dit, mais vous êtes vraiment bête, vous ne comprenez rien à rien. D'accord? Alors, est-ce que c'est un problème entre l'Église et les autres? Je ne pense pas. Dans mon enfance, j'ai entendu les débats entre ceux qui prenaient l'usage de plusieurs coupes à la table du Seigneur et ceux qui disaient il faut qu'il y ait une seule. Et chaque personne avait ses passages, ses convictions, avait prié et réfléchi sur le sujet. Et je prends un débat qui, j'espère, est passé aujourd'hui, je l'espère. Il y a un autre sur le port d'un chapeau de la part des sœurs. Comme s'il s'agissait d'un voile. Mais je crois que le problème, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui est permanente, et c'est le changement. Et même si la parole est toujours la même, la situation à laquelle nous faisons face change de génération en génération. Et il est facile aujourd'hui de savoir quelle est la réponse concernant le nombre de coupes à la table du Seigneur, ou s'il faut du pain levé ou non, ou si les dames doivent porter des chapeaux, ou quelle est la longueur d'une jupe. Mais il y a d'autres questions où c'est beaucoup moins évident. C'est beaucoup moins évident. Et je suis sûr que si on débattait d'exactement quelle doit être la place d'une femme dans l'Église, il y aurait des différences d'opinion. Est-ce qu'une femme a le droit de parler dans une assemblée? Non. Et pourtant, dans une place publique, parle-t-elle? Est-ce qu'une dame a le droit de prier en public? Non. Et pourtant, quand vous êtes à la maison, en famille, est-ce que les femmes n'ont pas le droit de prier? Vous comprenez? Il y a des questions, et je crois que c'est inutile de dire, moi j'ai lu la parole de Dieu, j'ai prié, donc je suis dans la vérité, mon frère, lui, Dieu l'éclaircira un jour. Donc, en fait, le problème, je trouve que ce qui est utile à débattre se trouve là.
Il y a un autre passage qui peut nous éclairer, peut-être. Les choses qu'on a apprises ne sont pas si version pour mon ami de Paris, qui sont vraiment belles. Oui, il y a un autre passage, quelque part du début, où pouvons-nous ensemble, un jour ensemble. Et si vous êtes en difficulté, par quelque chose d'autre, n'est-ce pas, c'est Dieu vous éclaire là, là-dessous aussi.
Oui, c'est Corinthien. En Corinthien. C'est un 1 Corinthien. Enfin, bref, je pourrais chercher la référence. Mais si quelqu'un l'a vu, on donnera.
Et donc, un premier aussi enseignement, c'est que Dieu en a un honneur et division. Ça, on peut dire, c'est facile à comprendre. Et donc, il ne pourrait être permis jusque à quand nous ayons compris d'être ensemble, marcher ensemble. Il n'est pas dit que nous soyons d'accord sur toutes choses, mais ayons cette fraternité, ayons ce sentiment de marcher ensemble, et en fur et à mesure, il dit nous éclairer la peut-être, il nous aidera la dessus.
Pascal.
Pour que tu parlais de l'épistémologie de la théorie de la connaissance, il y a peut-être une autre dimension que tu évoques, on évoque celle sur laquelle on pense, qui est l'Esprit Saint. De telle manière qu'il existe des gens, des personnes, qui connaissent la Bible par cœur et qui n'ont pas l'Esprit Saint. Je pense que le diable connaît très très bien la Bible. Il existe, par contre, pas de personnes qui ont l'Esprit Saint et qui sont en désaccord avec la vie. De sorte qu'on puisse trouver des gens de la grande partie du monde qui n'ont peut-être pas vu la vie une seule fois, pardon, et qui par contre vivent une vie biblique, qui parlent bibliquement, et qui pourraient être confrontés à des problèmes d'être très épineux et qui pourraient les résoudre de manière biblique. Alors, quand Jean parle de l'onction de la connaissance, il parle de quelque chose qui nous fait peur, de notre société positiviste où on aime bien que tout soit très objectif et objectivisé. Et quand Augustin parle à son auditoire, et vous connaissez son talent, sûrement, oratoire et exégète, il disait à son auditoire, mais qu'est-ce que j'ai à vous enseigner? Parce que l'Esprit Saint vous enseigne lui-même.
Tout cela est vrai, pourtant. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Paul parle à l'église à Corinthe et il dit mes frères. Il les adresse comme des chrétiens, comme lui. Alors, si j'ai bien lu les Écritures, une des choses fondamentales, c'est que si on est chrétien, le Saint-Esprit est présent dans notre cœur. Pourtant, il est possible d'attrister le Saint-Esprit. Et Paul s'adresse à ces chrétiens et il dit vous êtes charnels. Votre réflexion est charnelle. Je me demande à quel point ça nous avance de dire, même si c'est vrai, je crois que c'est vrai, il y a des gens qui connaissent la Bible mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui connaissent la Bible qui ont le Saint-Esprit et qui refusent de laisser le Saint-Esprit œuvrer dans leur vie. Je crois qu'il y a une chose qui est très biblique quand même que je voudrais dire à ce sujet. En ce qui concerne l'Esprit de Dieu, qui est un sujet, entre parenthèses, qu'il faut que nous approfondissions. Je crois que nous avons un peu peur de cet esprit qui souffle où il veut. Demain, j'ai quelque part une citation je vais essayer de résumer. Si nous laissons agir Dieu dans notre cœur par son esprit, il nous amènera dans des contrées nouvelles et sauvages. Mais il ne nous laissera pas tout seul. En même temps, le travail de l'esprit ne peut pas être séparé de la parole de Dieu.
Et Jésus le dit dans son dernier discours, hein, Jean 13 à 17, hein, plusieurs fois. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité, oui, mais en faisant quoi? En vous ramenant continuellement à la parole de Dieu. Si je continue, j'ai autre chose à dire à ce sujet. Et c'est vrai qu'aucune vérité n'est objective. Je crois qu'il faut approfondir cette idée-là aussi. Elle ne devrait pas l'être. On ne doit pas connaître, avoir possession de la vérité, mais il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut que ce soit intériorisé, il faut que ce soit quelque chose de vécu et de personnel. Mais Jésus dit ces paroles qui ont été mal comprises à l'époque et qui choquent encore. Vous, il faut nous manger. Il faut manger ma chair. Et je crois que ce que Jésus est en train de dire, ne vous débitez pas des paroles que je vous ai dites, mais que cela fasse partie de votre personnalité. Donc ça devient subjectif. C'est à partir de là que l'on peut partager l'évangile avec d'autres, à partir de ce que nous sommes devenus grâce à l'Esprit et à la parole. Luigi.
Il me semble a priori qu'il y a plusieurs étapes dans quelqu'un et qu'on fait plusieurs points dans la Bible que je vais utiliser. Par exemple, pour que un chrétien soit en harmonie avec la parole, il faut qu'il arrive à distinguer ce qui est complexe historique chaque fois et si cela nous concerne ou ne nous concerne pas. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut dire on est en harmonie avec la parole. Mais il faut avoir cette certitude. Parce que si on n'a pas, on risque d'avoir des erreurs de jugement, de compréhension de la parole. C'est pour cela que je dis que parfois, si on est passé, ou la Bible s'est fait au ministère, comme j'ai dit, et on parle et on parle. D'accord, faut-il être en mesure de faire.
Oui, il faut étudier la méthodologie. Comment savoir, il faut étudier le mot, la parole de Dieu, il faut étudier le contexte textuel et historique, il faut aborder la question de la forme littéraire, il ne faut pas étudier l'Apocalypse comme on étudierait Matthieu ou Romain. Et pourtant, on voudrait bien parfois, n'est-ce pas? Il faut lire dans notre esprit ce que Max Denner appelle la mentalité du texte à l'appui du texte, le texte paper. Hein, vous savez, on met des papiers pour accrocher les manteaux, et parfois on cherche des textes pour accrocher nos idées, hein, comme tu disais tout à l'heure. Il faut éliminer cette mentalité de notre esprit. Hein. J'ai une idée, on a reçu un verset biblique.
Dans cette mesure, il faut une contextualisation de la parole de Dieu. Il faut ce qui est beaucoup moins difficile que certains le prétendent.
C'est moins difficile que tu dis, et il faut aussi que cette complexité est devenue, d'ailleurs, c'est évident, heureusement, il aurait fait autrement. Oui. C'est-à-dire qu'il a fait justement pour éviter tout ce spécialisme dans la connaissance, mais en même temps, ça ne doit pas pousser à nous dire, mais je ne veux jamais être certain d'orienter du livre, de tout le monde qui interprète.
Absolument.
Une fausse condition. Mais ça fait partie aussi de cette tension qui doit exister en nous, qui finalement touche le point à point de l'humilité, et je dois continuer à chercher à apprendre davantage et à revérifier constamment ce que j'ai déjà.
Je ne peux pas résister à la tentation de relire ce que tu as dit. c'est important. Richard s'est servi d'une tension. Il y a tension. Et cette tension, je crois, est venue par Dieu. L'Ancien Testament ou plutôt la période mosaïque, avec la loi. D'accord? Et à partir des 10 commandements, il y a le Deutéronome, les nombres lévitiques, et même les écrits juifs, les traditions, pour interpréter tout cela. Jusqu'au point, on arrive à avoir une loi sur presque tout. Et Jésus, quand il vient, dit, on va mettre fin à ce système, il n'est pas parfait. D'accord? Alors, je voudrais revenir à ce que tu disais très, très rapidement. Il y a une progression. Quand on est enfant, on a des règles. Tu ne touches pas à ça. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit. Mais je parle là à un auditoire que je considère comme étant plus adulte que cela. Il faut passer par la période où on est capable de dire, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'interdit ceci, il me demande cela, mais c'est dans sa parole, d'accord, j'obéis. Mais il faut quand même un jour aller au-delà de cela, parce que Jésus n'est pas venu avec un nouveau système légal. Et effectivement, c'est dans la volonté de Dieu qu'il l'a fait. Et je crois que l'autre extrême nous vient des religions orientales, où Dieu est quelque chose de vague, où il n'y a pas de bien et de mal, où on est dans un marasme total et chaque personne fait son truc. Et c'est pas par hasard que ces religions aujourd'hui ont un grand attrait dans notre monde occidental aussi. Et dans le Nouveau Testament, on a le juste milieu voulu par Dieu, qui est une tension entre ma recherche personnelle, qui implique une certaine humilité, parce que je ne peux jamais être absolument certain d'avoir bien compris ou tout compris, et cette ancre, ce point de repère, cette chose solide, immuable, qui est la parole de Dieu. Et il y a forcément donc cette tension, comme une tension entre les problèmes et les questions de nos contemporains, et les paroles de Jésus, qui a parlé dans un milieu rural et non urbain, qui a parlé dans une société hébraïque et non pas française, il y a près de 2000 ans. Et nous devons, notre travail avec l'aide du Saint-Esprit est de faire le trait d'union entre les deux.
Je vais vous reconnaître la vérité et la vérité
vous affranchira.
Vous affranchira. Oui.
Oui.
Si chacun aime ce verset, de laisser voir pour lui-même. Mais il y a cette condition, cette petite parcelle ici. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment ici. Et je vous ferai connaître toi-même. Prenez-toi et on est en avant. Mais n'oubliez jamais aussi. Condition.
Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, on n'est pas en contradiction avec ce verset. Et je crois que parfois, nous avons trop, nous manquons de foi alors que nous pensons que nous faisons preuve de foi. En disant par exemple, il y a certaines certitudes. Pratiquement, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, Joseph. Je pense qu'il n'y a rien que l'on a l'occasion, vraiment rien, qu'on devrait avoir peur de remettre en question à l'occasion. Et je dis que ça, c'est une preuve de foi, et non pas le contraire. Prenons l'exemple le plus radical, la résurrection de Christ. Or, on sait à partir de 1 Corinthiens chapitre 15 que toute notre foi est fondée là-dessus. Paul dit, si nous, en paraphrasant, si Christ n'est pas ressuscité, ne restez pas chrétien. Ça vaut pas la peine. Okay? Donc c'est vraiment la base. Or, cette base est un événement historique ou bien il ne l'est pas. Pour Paul, ce n'est pas ressuscité dans la pensée des disciples. On continue à croire en lui malgré le calvaire, c'est qu'il n'était plus dans le tombeau. Et c'est pourquoi je dis, pour moi, refuser de considérer le pour et le contre de la résurrection de Jésus est un manque de foi. C'est-à-dire, ah non, ça je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors que si on dit, examinons les évidences, faisons confiance à Dieu, qui nous a donné cet événement historique comme pierre de tout, si vous voulez, comme base de notre foi. Et qu'est-ce que je risque si je remets ça en question? Ou si je suis prêt à examiner les pour et les contre, de lire un livre comme celui d'Ernest Renan et un autre qui ne croit pas à la résurrection, et d'examiner ces arguments, comme tu disais, pour le curé, le mormon, le témoin de Jéhovah. Je dis, puisque Jésus est venu pour annoncer la vérité, chaque remise en question, je ne veux pas dire chaque semaine, mais à l'occasion, quand par exemple nous sommes interpellés par quelqu'un qui n'est pas chrétien, soyons prêts à dire d'accord, examinons les faits. Et je ne peux que croire, grandir à travers cette expérience. Et Jésus étant la vérité, il veut que nous approchions de plus en plus de la vérité. Et la vérité n'est pas quelque chose de subjectif dans le sens où elle peut être différente pour moi et pour toi. Dans ce sens fondamental, dans le sens d'événements historiques. Ça s'est passé comme ça ou ça s'est passé autrement. Laurent, ne pense pas, pardon.
Je trouve que je ne suis pas tellement d'accord avec ce que vous dites, parce qu'il y en aura un qui aura la foi plus faible que l'autre et qui ne pourra pas. Se confronter avec les témoins de Jéhovah, par exemple.
Okay.
Ça peut être une dernière étape de changement.
Absolument.
Et il y en a un qui, à qui Dieu donnera des dons, et dit, bon, je mets ça des énerves, mais je ne veux pas discuter de ça, je ne veux pas le faire de bouquin, je ne veux pas passer mon temps au cinéma pour imaginer des discothèques, peut-être pour plus faire ce ministère. Parce que je suis faible, parce que, moi, je suis faible, je suis tout à fait. Alors la solution, bien sûr, c'est de demander à Dieu le plus de foi. Mais je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire cette approche, de tout remettre en question.
Ah, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Moi, je disais tout à l'heure, si à un certain moment dans sa vie, on a besoin de règles, Jésus m'a dit ça, pose pas de question. Mais je crois que là, nous sommes appelés à devenir adultes, donc il arrive un moment où peut-être forcément on sera obligé de se remettre en question. Un chrétien, je vais vous donner un exemple. Un chrétien qui a grandi dans l'église, qui n'a jamais pu précisément poser des questions, trouve une jeune fille qui a grandi dans l'église et qui a une...